La vie privée, aujourd'hui, ça n'existe plus. Regardez dans les coulisses de l'Internet. Vous verrez ce gigantesque appareil de surveillance. Il amalgame en continu des milliards de points de données sur nous tous. La surveillance aujourd'hui, ce n'est plus juste l'affaire des États. C'est le web au grand complet qui est mené par la collecte de données personnelles.
C'est quand même assez épeurant, Catherine.
C'est très épeurant comme documentaire, vraiment. Mmh. J'en suis un peu traumatisée. Ça s'appelle Hack Montréal. C'est un documentaire d'Alexandre Sheldon. Et ça sera en salle le 17 mai prochain, donc la semaine prochaine. On prend un petit peu d'avance. Alexandre est avec nous en ligne. Bonjour, Alexandre. Vraiment, on le disait, là, c'était peur, hein, comme documentaire, de savoir, et on en a parlé d'ailleurs plus tôt ce matin, de savoir qu'on est constamment regardé, scruté, que toutes nos données sont enregistrées. Dans le fond, notre vie privée ne nous appartient plus. C'est vraiment ce que ça dit, ton documentaire?
Oui, c'est un peu le constat de départ du documentaire. C'est-à-dire que l'extrait que vous avez joué, d'ailleurs, ça fait drôle d'entendre ma voix au téléphone. Mais l'extrait que vous avez joué, c'est la première phrase de narration qui est dite dans le film. Donc, c'est vraiment le constat de départ. C'est qu'en 2019, on est vraiment dans un état où l'Internet, les télécommunications, les téléphones intelligents, l'Internet des objets de plus en plus, là, les réfrigérateurs connectés, les aspirateurs connectés, tout ça est devenu tellement omniprésent et tout ça crée un monde dans lequel on génère constamment des données sur toutes nos activités, notre géolocalisation, nos conversations, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, que ça, tout ça fait en sorte qu'on est dans une société qui est devenue extrêmement transparente.
Alexandre, avant qu'on embarque dans le vif du sujet, parce qu'on va parler de pirates informatiques, mais François Gagnon, notre animateur, qui est présent avec moi, parlait que lui est allé visiter certains magasins, puis bon, après, il commençait à recevoir de la pub sur le magasin en question.
Très, très ciblé, là.
Ciblé. Et là, il disait, ben moi, je me suis désactivé de ma géolocalisation. C'est pas assez. Ça n'en prend plus.
Ben, vous voyez, ça, c'est un bon exemple qui montre très bien à quel point la collecte de données est devenue un principe économique qui est rendu partout. Donc là, je peux pas vraiment dire avec certitude c'est quoi qui s'est passé dans le cas de téléphone de M. Gagnon, mais ma première supposition, ce serait qu'il y avait des bornes Wi-Fi gratuites dans le centre d'achat ou dans le
magasin. Tout à fait.
Et que votre téléphone, sans même que vous vous connectiez au Wi-Fi, juste le fait que votre téléphone a reconnu le réseau Wi-Fi, a fait un échange de signal quelconque entre la borne Wi-Fi et votre téléphone, ce qui était suffisant pour vous identifier. Peut-être que votre identifiant de votre téléphone est listé dans plusieurs listes qui sont...
Est-ce qu'on est capable de contrer ça?
Ultimement, c'est
je veux dire,
le constat un peu malheureux que j'ai été moi-même obligé de faire en bout de ligne dans mon documentaire, c'est que c'est difficile. C'est difficile, puis qu'on est rendu tellement en ligne, on est rendu tellement connecté, on est rendu tellement dépendant sur nos engins, sont rendus tellement central. Les téléphones mobiles, puis notre présence en ligne est tellement centrale à notre fonctionnement normal, socialement parlant, que c'est rendu presque impossible. Et donc, les solutions qui existent, elles sont là. Hein? Il y en a des solutions. Dans le cas de la borne Wi-Fi au centre d'achat, la solution, c'est de fermer votre Wi-Fi sur votre téléphone. La solution pour faire des échanges en messagerie qui sont privés, c'est de pas utiliser Facebook Messenger, c'est d'utiliser des services de messagerie qui sont sécurisés et encryptés. Le plus populaire en ce moment s'appelle Signal, S-I-G-N-A-L, qui est une application que vous pouvez télécharger sur votre téléphone, sur votre ordinateur. Donc, il y en a des solutions, mais je veux dire, on se bat contre Google d'un côté, contre Facebook de l'autre côté, puis contre la NSA de l'autre côté. Donc, c'est un combat qu'on pourrait dire qui est très asymétrique.
Oui, mais là, quand t'es service secret après toi, là, habituellement, t'es dans le trou.
T'as des problèmes.
C'est des compagnies puis des institutions qui ont des ressources incroyables,
là,
qui dominent l'économie et qui dominent la géopolitique. Et puis, donc, face à ça, moi, j'ai voulu voir c'est quoi que les hackers, donc les pirates informatiques, avaient développé comme solution, parce que à peu près toutes les applications qui sont des alternatives viables aux applications qu'on utilise ou aux systèmes de messagerie qu'on utilise sont à peu près tous développés par des hackers. Et donc, moi, j'ai voulu m'intéresser à ce groupe de personnes-là qui cherchent à trouver des solutions, des pistes de solutions, justement, qui sont vraiment disons, à l'avant-garde de ce combat-là pour la vie privée.
Et on en a plusieurs.
Oui, mais c'est ça, c'est vrai que Montréal est une plaque tournante et qu'on est vraiment fort dans ce domaine-là?
De plus en plus, puis c'est d'ailleurs, mon film va être lancé en avant-première à un grand événement de hacking qui a lieu à Montréal à chaque année qui s'appelle NorthSec. Et puis, vous voyez, je pense l'année dernière, NorthSec devait être comme 700 participants. Et cette année, c'est 800. Il y a 5 ans, c'était peut-être 500. Donc, à chaque année, ça grossit. Montréal devient de plus en plus important à ce niveau-là. Évidemment, on est un pôle technologique de plus en plus important au niveau de l'intelligence artificielle, au niveau du jeu vidéo. Il y a 4 universités à Montréal. Les loyers sont relativement plus abordables que dans d'autres grandes villes nord-américaines. Donc, tout ça fait en sorte que ça devient un milieu qui est assez... propice à l'éclosion d'une scène de hacking intéressante.
Dans le documentaire, vous parlez, entre autres, d'encryption.
Oui.
Qu'est-ce que ça donne d'encrypter les données ou comment ça fonctionne?
Bien, vous voyez, dans le fond, l'encryption, c'est un terme, c'est un anglicisme que j'utilise de manière assumée dans le film parce que
oui.
Le vrai mot français, c'est chiffrement, mais on dirait qu'encryption, c'est plus connu. Les gens vont mieux comprendre qu'est-ce qu'on veut dire par de l'encryption, mais ça veut tout simplement dire... coder vos messages pour qu'ils ne soient lisibles que par la personne à qui vous envoyez le message. C'est-à-dire, si vous utilisez Gmail, par exemple, pour vos courriels, Gmail va encrypter, va faire une forme d'encryption pour être sûr qu'il n'y ait pas de hacker malicieux qui puisse facilement avoir accès à vos courriels, mais Gmail, par contre, a accès à vos courriels. Donc, les systèmes d'encryption qu'on appelle de point à point, donc de personne à personne, ça fait que juste la personne à qui j'envoie le courriel va pouvoir lire mon courriel, pas une personne au centre qui serait soit Gmail, soit Mark Zuckerberg, soit
oui.
la NSA, n'importe qui d'autre. Donc, c'est une manière de sécuriser vos communications. Et puis, le problème avec l'encryption, souvent, c'est que c'est un peu compliqué à faire quand on n'a pas une certaine base en informatique, là. Mais moi-même, dans le processus de réalisation du film, je me suis initié à beaucoup de ces outils-là. Puis je peux vous dire qu'il y en a plusieurs, dont par exemple Signal, que j'ai déjà cité, qui sont extrêmement faciles à utiliser et qui ressemblent là, en tout point à tous les autres services de messagerie que vous utilisez, mais qui sont audités par des communautés mondiales de hackers, de gens qui travaillent en sécurité informatique et qui peuvent vous garantir un beaucoup plus haut niveau de sécurisation de vos communications. Puis ça, il y en a une tonne des outils comme ça. Il faut juste fouiller un peu. Puis je pourrais peut-être vous envoyer quelques liens là, intéressants plutôt que toutes les citer.
Oui,
tout à fait. On pourrait les mettre sur notre site Internet.
C'est ça. Donc, si vous pensez, tu sais, il y a des alternatives à Skype, il y a des alternatives de messagerie, il y a des alternatives de système d'exploitation de tout l'ordinateur. Pour toutes les applications, logiciels, services que vous utilisez, il y a des alternatives qui sont développés dans le but explicite de protéger votre vie privée.
Alexandre, est-ce que tu crois que la mentalité des gens peut changer? Parce que, tu sais, ce que vous dites dans l'histoire de ton documentaire, c'est que, grosso modo, on accepte de se faire surveiller. Mm-hmm. On donne quasiment notre accord à tout. Est-ce que tu penses que les gens peuvent vraiment changer leur perception, leur façon de voir les choses et changer par la suite leur comportement?
Bien, j'ose croire que oui, là. J'espère que oui. C'est sûr que ces logiciels-là, ces applications-là sont souvent gratuites. Fait que c'est sûr que l'appât de la gratuité est extrêmement fort. Donc, la chose à se souvenir, c'est que si vous utilisez un service gratuit, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Donc, vous n'êtes pas le produit, c'est pas la chose que vous utilisez, c'est vous qui êtes en train d'être vendu et commodifié à travers la plateforme que vous utilisez. Donc, ça, c'est quand même un déclic important qui peut, je pense, allumer les consciences, là, de dire « Ah, je suis un produit ». Si vous êtes sur Facebook, que vous utilisez Facebook, c'est vous le produit. C'est vous que Facebook vend aux compagnies de marketing, etc. Si vous utilisez Gmail, c'est la même chose. Gmail lit absolument tous vos courriels de manière automatique.
C'est incroyable.
Et donc, je veux dire, c'est bizarre. Si les gens voyaient clairement cette surveillance-là, c'est qu'elle est un peu immatérielle, en fait, c'est ça que je veux dire. C'est une surveillance qui est comme immatérielle, qui est dure à sentir, qui est dure à voir, mais si on disait, par exemple, que Post Canada allait prendre toutes vos lettres, les ouvrir et les lire une à une et les analyser et utiliser le contenu de toutes vos lettres pour faire des profils psychologiques hyper détaillés de qui vous êtes comme personne, il n'y a personne qui accepterait ça. On serait tous dans la rue en train de faire des manifs.
Tu vois, il y a Stéphane qui nous écrit et qui nous dit, là, dis-moi, mon entreprise fait de la publicité ciblée directement sur Google. Alors, si vous passez à côté de mon entreprise, c'est certain que vous allez avoir de la publicité. Alors, lui, il a trouvé le moyen avec Google de pouvoir te cibler. C'est sûr que ça va fonctionner avec le Wi-Fi, là. Mais il y en a pas pour moins que... Tu sais, on est rendu loin, là. Tu sais, ces gens-là, ces personnes-là veulent faire de l'argent, je les comprends. Je peux comprendre, c'est quelqu'un de Sherbrooke, c'est un 819, là. Alors, donc, on prend tous les moyens nécessaires pour être capable d'atteindre la clientèle, mais là, ça atteint ta vie privée aussi en même temps, un petit peu.
Oui, puis je veux dire, moi, je veux pas me faire moralisateur non plus, là, de dire, si vous êtes sur Facebook ou Google... vous participez à quelque chose de mal. Moi-même, j'ai un compte Gmail, je suis sur Facebook. On fait une partie de la promotion de notre film sur Facebook. Je pense qu'on est rendu... Tu sais, une personne aujourd'hui qui peut se permettre de ne pas être sur Facebook, de ne pas avoir de compte courriel, de ne pas avoir de connexion de vitesse, c'est quelqu'un qui a le luxe de pouvoir se déconnecter comme ça. C'est vraiment pas un luxe qui est donné à tout le monde. Beaucoup de personnes...
Malheureusement.
C'est ça. N'importe qui travaille en communication, n'importe qui a une entreprise dépend de ça. Puis ça fait juste montrer à quel point ces plateformes-là, qui sont des plateformes privées, se sont implantées au cœur du fonctionnement normal de nos sociétés. Puis c'est ça qu'on devrait questionner aussi d'un point de vue collectif, là.
Oui, nous sommes réduits extrêmement dépendants. Malheureusement, le temps nous manque.
Oui, Catherine. Mais Alexandre, on doit se laisser, mais juste en un mot. Est-ce que ton comportement, toi, a changé après avoir fait ce documentaire-là?
À 100%.
Bon, c'est ce qu'on veut aller chercher. Je rappelle, le titre, ça s'appelle « Hack Montréal » et ça va être en salle à partir de la semaine prochaine. Donc, au cinéma, bravo, Alexandre Sheldon.
Au cinéma du parc.
Au cinéma du parc.
Préciser, oui.
Et merci beaucoup.
Excellent. Merci beaucoup. Merci, Catherine. Il est 9h30, résumé de l'actualité. Ne manquez pas Christian Page un petit peu plus tard dans cette heure-ci. À tout de suite.